Bonjour tout le monde. On est déjà 112 participants, donc on est très
Mon
heureux
Dieu, c'est
d'avoir.
vrai!
Ouais, vous suscitez beaucoup d'enthousiasme, Kim.
J'allais dire, c'est tout le Saint-Lambert!
Ouais, je pense que tous les clients de la librairie sont ici ce soir, là, c'est bon.
Oui. Et vraiment, j'ai l'impression qu'on est voisins, là, qu'on se connaît, que mon fils Justin doit connaître la plupart des parents qui sont présents aujourd'hui,
Oui,
peut-être.
mais c'est ça qui est le fun d'habiter à Saint-Lambert, là, avec toutes les petites boutiques, tous les gens qui se connaissent bien, là, c'est très, très familier. Donc, j'ai juste commencé par me présenter. Vous avez mon nom en bas, mais je m'appelle Myriam Vincent, donc, et je suis celle qui s'occupe d'organiser et d'animer les rencontres littéraires au Furetard. Donc, comme beaucoup de nos clients le savent, on avait l'habitude d'organiser les rencontres en librairie, en présentiel, mais avec la pandémie, on voulait attendre que le confinement finisse avant de les recommencer. Mais là, avec le confinement qui s'étire, on s'est dit qu'on allait tenter le coup avec le virtuel. Même si en tant que libraire, on n'est pas excellent avec le virtuel, on s'est dit que ça valait la peine d'essayer. Et avec qui de mieux? Pour tenter le coup virtuellement avec Kim Thuy, qui est une autrice magnifique, lumineuse, que nos clients à la librairie Le Fureteur adorent et les libraires aussi. Donc, on est très heureux que vous ayez accepté l'invitation. Kim, merci.
Ben, vraiment, c'est avec plaisir. Puis, ben, vous savez, tu sais, quand je vais chez le Furetard, je reste bien trop longtemps.
Ah non, c'est
Ils ont dit,
parfait.
on va faire le virtuel comme ça, on peut la couper.
Non, oh mon Dieu, aussi, si vous saviez comment on aurait aimé, votre prochain livre, on va le faire en présentiel à la rencontre, là, puis on aura tout le temps
Oui, à la sortie de la pandémie, on va faire toutes sortes de fêtes.
qu'on veut. Oui, oh mon Dieu, oui, c'est sûr. Donc, je vais vous présenter un petit peu. Je pense que tout le monde vous connaît déjà, mais juste au cas où, on va faire un petit topo. Donc, avocate, restauratrice, couturière, interprète et évidemment autrice, Kim Thuy est une femme aux multiples métiers qui a publié son premier roman Rue en 2009. Le livre a connu un succès fulgurant dès sa sortie, est traduit en 25 langues et a remporté de nombreux prix littéraires, dont le prix du gouverneur général. S'en sont suivies la publication de Man en 2013, puis Vie en 2016. Et elle est ici pour nous parler de son tout dernier roman, M, qui est paru en 2020 à Libre Expression, donc à sa maison d'édition habituelle. Donc,
Juste faire une petite
oui.
parenthèse, c'est drôle, au tout début, quand on faisait ma bio et tout ça, le papa de mes fils ont dit tu devrais pas nommer tous tes métiers comme ça. On a vraiment l'impression que tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. Il me semble que c'est négatif plus que positif.
Oh mon Dieu, moi je trouve ça tellement positif. Ça fait une personne très, très, très diversifiée avec des intérêts, une curiosité qui doit être, mon Dieu, sans limite.
Et
Ça
ça
doit.
démontre aussi, en fait, je regardais ça parce qu'on est en train de refaire ma bio pour une mise à jour, en fait, puis on m'a demandé de relire. Et je me dis, ah, vraiment, ça, c'est la preuve, ou sinon, l'illustration même de la liberté que cette société nous offre. Elle nous
Oui.
permet d'être tout ce qu'on veut, de changer, de réessayer, d'échouer surtout, et de recommencer. Vraiment, tu sais, j'en ai parlé, je ne sais plus où, mais quand même, on est une des rares sociétés qui a un droit de la faillite très solide.
C'est
Et
vrai, ouais.
là, pour nous permettre d'échouer puis de se relever par la suite. Puis j'étais, je pense, je ne sais plus, c'était la Thaïlande qui venait d'adopter le droit de la faillite. Et la même chose au Vietnam, il n'y en avait pas dans les années 90
Oh,
quand j'étais là-bas. Et donc, tu sais, on prend pour acquis que le
wow.
droit de la faillite existe, hein, mais non, pas partout. Donc, c'est vraiment, c'est un pays qui nous permet d'échouer. Il y a un filet.
C'est une grande, grande chance. Et j'ai l'impression que toutes ces choses que vous avez faites, que vous faites encore, ont beaucoup nourri votre écriture. Je veux dire, dans tous vos livres, on sent la passion pour la cuisine. Vous avez des personnages avocates, vous avez des personnages traductrices, interprètes. Donc, est-ce que vous sentez que tout ce parcours que vous avez eu vous permet d'aller chercher beaucoup?
Ah, c'est sûr. Moi, je suis pas. J'allais dire, je vais faire la comparaison avec quelqu'un comme Simon Boulris. Il est né
Oui.
écrivain. Il est né dramaturge. Il est né, voilà. Et il écrit depuis l'âge, je ne sais pas 3 ans ou 5 ans. Il a toujours fait des livres, il a toujours cet imaginaire, hein, alors que moi, non. Il a fallu que j'ai vécu, en fait, beaucoup, puis avoir rencontré beaucoup de monde pour pouvoir écrire des tout petits livres comme ça. Ne serait-ce que juste mes années en droit, mes 5 années en droit, je réussis juste à dire que je suis avocate dans les livres, mais je ne peux pas rien dire de plus, alors qu'il y a 1000 histoires à raconter de ces années de droit. Et donc, oui, moi, il faut que j'ai vécu, genre, 10 ans pour écrire une ligne.
Oh mon Dieu! Mais c'est justement... Donc, oui. Une particularité de vos livres qui sont assez courts, mais qui recèlent des personnages très complexes, des univers très complexes et énormément. Le mot qui me vient en tête, c'est matière, et c'est un mot très peu poétique, mais c'est des livres qui nous font voyager à travers la vie entière de plusieurs personnages. Comment vous arrivez à mettre autant de choses dans un seul livre tout en gardant une légèreté?
C'est vraiment en écrivant, en fait, parce que je crois toujours que je sais le thème ou sinon l'histoire que je veux raconter. Et très souvent, je raconte ça à toutes mes éditrices. Parce que j'écris beaucoup en voyage, parce que je voyageais beaucoup plus que j'écris en voyage, c'est ça. C'est parce que je voyage, alors je ne peux pas faire autrement qu'écrire pendant que je voyage. Et donc, à chaque fois que je voyage, c'est pour le travail, donc je suis reçue par ma maison d'édition à l'étranger. Et à chacune des éditrices, puis je dis chacune vraiment parce qu'elles sont toutes des femmes, sauf mon éditeur serbe et italien. Ça, ce sont deux hommes. Et vraiment, l'éditeur serbe, t'es trop jeune, Myriam, pour connaître Docteur Jivago, Omar Sherif. À l'époque, c'est vraiment la figure masculine, enfin, une star à l'époque. Okay. Lui, il ressemble à Omar Sherif. C'est comme l'équivalent de Brad Pitt. La notoriété là, de Omar Sharif. Je vais revenir après. Andréol, mon éditeur italien. Donc, il y en a deux, mais le reste, ce sont des femmes, surtout. Mm-hmm. Et j'ai la chance d'adorer. Sont pas mes éditrices ou des collègues, sont vraiment des amis, en fait. Wow. Donc, très souvent, je suis envoyée, puis là, je leur raconte ce que je veux écrire ou ce que je suis en train d'écrire. Et quand je m'assois pour écrire, c'est jamais ça. C'est complètement autre chose. Et donc, tu sais, juste pour le dernier livre, la première petite idée, mais que je ne savais pas que ça allait devenir l'axe central du livre du tout, c'est d'avoir rencontré Heidi Bronstein, qui est une styliste culinaire. J'étais invitée sur un plateau, puis elle connaissait très bien la cuisine vietnamienne. On commence à se parler, et c'est là où j'ai appris que ça... Ma mère a adopté 5 Vietnamiens et qu'elle avait créé des orphelinats au Vietnam. Oh, wow. Et ça s'est arrêté là. Puis elle a raconté un peu que, sa mère est allée sauver les Vietnamiens à la fin de la guerre. Mais pas plus, c'était juste comme ça. Et je suis allée lire, et par pur hasard, j'étais dans le couloir de Radio-Canada et il y avait la photo de sa maman. Puis elle se ressemble tellement à Heidi et sa maman que j'ai... J'étais comme, c'est Heidi? Puis en dessous, j'ai dit, non, c'est Naomi, sa maman. Et là, je suis allée lire pourquoi sa photo était là. Et elle a reçu l'Ordre du Canada et tout ça parce qu'elle a fait des gestes vraiment grandioses, héroïques. Et c'est là où j'ai su qu'elle était vraiment sur le tarmac, qu'elle était dans l'avion à embarquer les enfants et qu'elle est ressortie pour aller en chercher d'autres, pour un autre avion le lendemain, et que l'avion décolle et explose devant ses yeux. Il y a une photo d'elle sur le tarmac avec les yeux complètement, je ne sais pas comment on dit ça, sous choc, en fait, de voir cet avion en feu avec avec les enfants qu'elle avait mis à l'intérieur de l'avion. Et donc, là, j'ai commencé à lire là-dessus, mais ça, c'était... Là, vraiment, là, en date, là, c'était en 2011.
Oh, wow! Okay.
Ça fait longtemps, longtemps. Là. Et après ça, il y a eu quoi d'autre? Le vernis à ongles. J'ai rencontré une femme qui souffrait vraiment un cancer ici, sous le front. Okay. Là, parce qu'elle me décrivait comment l'opération a eu lieu, là, comment on enlève Ah, bon. Et c'est là où on a parlé du vernis à ongles, comment il y a une incidence vraiment plus élevée chez les travailleuses, les manucuristes. Et c'est resté là, ça, c'était en 2000, peut-être 12, 13, je ne sais pas. Donc, il y a plein de petites histoires comme ça qui sont rentrées dans ma tête. Et à un moment donné, quand je me suis assise pour écrire, ben, tout ça ressort. Et juste le mot, par exemple, une des premières pages dont je vends pas le punch, rien, ben, il n'y a pas de punch. Je ne sais pas comment faire un livre avec un punch. Donc,
Intéressant.
oui, juste le mot coulis.
Ouais.
Au Vietnam, quand on fait travailler quelqu'un beaucoup, et quand les Vietnamiens, quand on venait d'arriver ici, et qu'on nous demandait quel était nos jobs et tout ça, très souvent, on disait, ah, on est des coulis, des ouvriers. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de. Il n'y avait plus de titre, il n'y avait plus de position claire et tout ça. Donc, les Vietnamiens, entre nous, on se répondait ça. On disait, ah, ben, tu sais, maintenant, on est juste des coulis. Et quand je me suis assise pour écrire, je me dis, ah, c'est drôle, ce mot coulis n'est pas vietnamien. Parce que le vietnamien est monosyllabique. Il n'y a jamais de mot avec deux syllabes. Donc, je me dis, mais c'est sûr que coulis est un mot étranger. Quel est ce mot? D'où vient le mot coulis? Et je suis allée chercher et c'est là où j'ai vu que c'est un mot qu'on a donné aux ouvriers après l'esclavage. On a créé comme un genre de traite d'ouvriers. En fait, beaucoup de la Chine, de l'Inde et tout ça, qui voyageaient un peu partout dans les colonies britanniques et françaises et ailleurs. Et donc, le mot vient d'ailleurs. Ça ne vient pas du vietnamien. Et là, j'ai commencé à chercher. Et là, je suis tombée sur les plantations de caoutchouc où il y a beaucoup de coulis qui y travaillent. Et donc, le père du personnage principal,
Alexandre?
oui, Alexandre, qui est français, parce qu'au départ, j'ai dit, ah, je veux que son père soit français. Mais qu'est-ce qu'il fait au Vietnam, un Français qui est au Vietnam? Donc, il fallait lui trouver, en fait, un emploi ou sinon une position. Puis là, j'ai dit, ben, il y avait beaucoup de Français qui étaient des propriétaires de plantations de café, de caoutchouc et tout ça. Et le café, j'en avais déjà parlé dans d'autres livres. J'ai dit, ah, je vais parler du caoutchouc. Et c'est comme ça que là, j'ai commencé à faire de la recherche sur le caoutchouc et je suis tombée sur le latex naturel et je ne savais pas du tout que les avions et tout ça, quand on a besoin d'un produit parfait, là, d'un produit qui est capable de soutenir, ben de résister à des grandes températures, à des frictions extrêmes, ben il faut du latex naturel. Et c'est là où je suis allée chercher puis l'histoire la plus drôle. Puis vraiment, j'ai travaillé fort pour pouvoir inclure cette phrase-là là, sur les préservatifs des condoms. C'est ça, mais c'est tellement drôle que pendant la guerre, c'est vrai, on oublie toujours que l'amour existe ou le désir continue à exister même pendant la guerre. Et c'est comme ça que les soldats tombaient malades parce qu'ils allaient voir les filles puis ils attrapaient des maladies. Puis l'armée perdait beaucoup de leur effectif parce qu'ils tombaient, ben, ils y attrapaient plein de virus. Ben, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est des
Et
virus,
des
des
ITS,
maladies.
des
Des
infections
maladies. Des ITS, des infections, oui, c'est ça.
sexuellement, là, ouais, c'est ça.
C'est ça parce qu'on disait que très souvent, ben, les mêmes femmes se retrouvent toujours autour de ces campements de soldats. Donc, ce sont les mêmes soldats et les mêmes femmes. Puis là, ben, ils se transmettent toutes sortes de choses. Et c'est pour ça que les Allemands ont priorisé l'utilisation du latex pour faire des préservatifs avant même de faire des pneus. Ils
Ah
roulaient
mon
sur
Dieu.
les jantes de camions et tout ça pour transporter les armes, mais ils réservaient pour les préservatifs parce qu'il y avait les Alliés ont bloqué et ne voulaient plus laisser les Allemands acheter du latex.
Donc, ils se sont retrouvés en pénurie, puis ils ont dû prioriser quelque chose. Donc, ça a été mis combo.
Oui, Donc, tu vois, donc je te raconte vraiment, là, je vous raconte, en fait, je partage avec vous un peu le cheminement. C'est quand on s'assoit à écrire, puis là, une chose après une autre, puis en écrivant, en découvrant ces histoires-là, ben, je ne pouvais pas ne pas vous partager ça. C'est l'histoire du préservatif, comment faire pour ne pas
Il faut
vous
l'inclure,
raconter.
là. Une fois qu'on le sait, il faut le partager. Je suis tout à fait d'accord.
Oui. Oui, mais il y a des bouts, je te dirais que je vous dirais que je voulais le faire et je n'ai pas réussi comme vous imaginez. Ben, tu sais, dans l'histoire, c'est ça, c'est ben, dans l'histoire, dans la vie, la plupart des soldats avaient 18 ans, 19 ans. On voyait dans la jungle vietnamienne, une jungle qu'ils ne connaissaient pas, qui était complètement étrangère, ne serait-ce que la température, le climat très humide et tout. Et les pièges. T'sais, ils n'avaient jamais vu ça, des bambous. Là, soudainement, t'sais, les pièges, c'était des tiges de bambou trempées dans des excréments. Bon, enfin, des serpents qu'ils n'avaient jamais vus de leur vie, hyper venimeux et tout. Et donc, t'sais, je raconte ça, je partage ça parce que je suis que vous voyez comment c'était pas facile pour eux, là, t'sais, un petit jeune de 18 ans de se retrouver là. Et donc, il y a toutes sortes de stress. Et une des façons pour déstresser ou dédramatiser ou pour, je ne sais pas, pour continuer, c'était de faire toutes sortes de jeux. Mais un des jeux, c'était de collectionner les oreilles des ennemis.
Ah, mon Dieu.
Qu'il réussissait à tuer. Et ça, j'ai entendu le témoignage d'un soldat qui disait qu'il arrivait, sa première journée, il arrive dans son campement, puis il voyait qu'à côté des lits des autres soldats, il y avait comment on dit ça, non? C'est comme des tiges avec des choses accrochées dessus. Puis il ne savait pas c'était quoi. Et c'était avec, ben, en regardant de plus près, qu'il voyait que c'était des oreilles séchées, enfilées, ensemble, accrochés à côté des lits. Et donc, c'était presque des médailles, hein,
Ouais, des trophées là,
des trophées. Ouais, voilà, pour dire combien d'ennemis que tu as tués, en
de.
fait. Et je voulais tellement raconter cette histoire. Parce que, oui, parce que ça révélait tellement, je ne sais pas, la difficulté de ces garçons-là. De ces jeunes garçons-là, comment ils font pour absorber tout ce stress, toutes ces étrangetés en faisant d'autres étrangetés, tu sais, des gestes étranges, mais j'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi à le faire.
Mais c'est vraiment intéressant. Puis on parle de choses horrifiantes. Puis j'ai l'impression que dans le livre, vous avez vraiment réussi à marcher sur l'espèce de fil de la noirceur et de la lumière de l'humain. Donc on voit dans le livre bon, ça parle beaucoup de la guerre au Vietnam, donc des soldats qui ont commis des actes horribles, qui tout d'un coup commettent un acte absolument généreux, et des personnes très bonnes qui tout à coup commettent un acte horrible. C'est une complexité qui est dérangeante, qu'on n'aime souvent pas penser, qui est dans l'humain. Comment vous avez fait pour être capable de la rendre dans le livre? Et est-ce que c'est joué dans des zones difficiles?
En fait, j'ai pas rien, j'ai rien inventé. Tout ce que j'ai fait, c'est raconter vraiment le. J'ai réussi là, à raconter peut-être le 0,01% de la réalité. C'est tout. Puis si on regarde la réalité est toujours contradictoire. Ou sinon, est aussi complexe que ça. Il n'y a rien de très, très clair. T'sais. Puis il faut toujours, si on creuse un tout petit peu, puis une des images qui m'est restée, puis qui m'a hantée un peu, c'est quand la première fois que je suis retournée au Vietnam après, ben, une fois que j'étais adulte, là, je ne sais plus quel âge que j'avais, mais je suis retournée et là, on est allé visiter un genre de baie de Halong. La même chose avec des rochers, très un paysage majestueux là, à regarder. Puis là, on était sur cette petite barque avec la dame qui ramait, ben, qui poussait en fait plus que ramait parce qu'il y avait très peu d'eau. Et autour de la digue, il y avait sa petite fille qui courait pour venir la rejoindre. Et donc, elle a embarqué la petite fille dans la barque avec nous. Et elle m'a proposé sa fille. Elle voulait que je la prenne puis que je parte avec sa fille.
Ah,
Et
wow.
sur le coup, avec le regard québécois de la situation, je me dis, mais comment est-ce qu'une mère peut se donner sa fille? C'est horrible de proposer sa fille de cette manière-là. Et ça, c'était ma première réaction. Et il m'a fallu quand même plusieurs années avant de comprendre que non, ça, c'est un amour encore plus grand. C'est-à-dire qu'elle va souffrir du manque de sa fille, mais c'est qu'au moins sa fille va avoir une meilleure vie. Et donc, dans ce geste-là, à lui seul, contient toute la contradiction et en même temps toute la logique du geste. Tu vois, donc si j'avais à décrire, je l'ai décrit, je pense, dans un des livres,
Ouais, il me semble que oui.
c'est ça, parce que ça m'a hantée pendant très longtemps. Et je crois que ça. Oui, il m'a fallu avoir les enfants probablement avant de comprendre le geste. Un peu comme j'ai décrit dans la rue, que mon père a apporté les pilules de cyanure, que si jamais on se retrouvait dans des situations extrêmes, à se faire envoyer en prison, où on savait très bien qu'on allait être torturé, on allait, bon, toutes sortes de choses qui pouvaient arriver en prison, ben, il avait déjà la pilule prête pour chacun d'entre nous, et c'est le plus grand geste d'amour. Mais au départ, quand même, c'est ça. Donc, je pense que la réalité, si on regarde vraiment, si on essaie vraiment de regarder la réalité de plusieurs angles différents, c'est là où on va toujours voir la lumière. Parce qu'il y a toujours une raison derrière.
C'est vraiment intéressant. Et vous avez parlé beaucoup de l'inspiration réelle qui a porté le livre. J'ai l'impression aussi qu'il y a un aspect documentaire. Je dis pas ça dans le sens où le livre est aride, mais j'ai l'impression
Super,
que
je suis
vous
très contente
Moi,
que tu
j'ai appris énormément sur les choses dont on a parlé, la guerre du Vietnam, les coulis, la manucure, le caoutchouc. J'ai appris plein de choses en lisant ce livre-là et je me suis demandé. Parce que ça reste un livre qui est enlevant, qu'on a le goût de lire, qui est poétique. Donc, comment vous avez fait pour doser la partie documentaire et la partie, disons, fiction, narration, pour que ça reste aussi intéressant? Est-ce que ça a été difficile?
Ah, il faut lire, relire et lire et relire encore, tu sais, vraiment, puis en enlever beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis juste pour un paragraphe, là, le paragraphe où j'ai décrit le massacre à Milaï, il m'a fallu 48 heures. Je me suis enfermée 48 heures dans un hôtel. Je me souviens encore, je suis arrivée à l'hôtel et j'ai le directeur de l'hôtel, du Germain, était là. Donc, j'ai dit là, Jacques-Alexandre, tu ne me laisses pas sortir de l'hôtel. Il n'y a aucune excuse pour moi de sortir de l'hôtel. Un. Deux, quand on va m'apporter de la nourriture, de juste me laisser ça devant la porte. Parce que si je vois quelqu'un, c'est sûr que je vais parler. Là, je ne travaillerai plus parce que j'aime les humains. Ça m'arrive tellement souvent, là, vraiment, de parler aux femmes de chambre pendant une demi-heure. Je les suis dans le couloir, puis je leur pose 1 000 questions parce qu'elles ont les meilleures histoires.
Ah, c'est sûr,
Mais oui, alors je me souviens, j'étais à Toronto, au Germain de Toronto. Vraiment, je pense qu'ils veulent plus que j'aille dans leur hôtel parce que je dérange tellement tout le personnel. Donc la femme de ménage, la femme de chambre arrive et j'ai dit, il n'y a rien à faire. Donc si vous voulez, je vous invite à vous asseoir, je vous fais un thé. Puis on jase pendant 15 minutes comme si vous aviez fait la chambre. Parce que je crois qu'elles sont payées par chambre ou quelque chose comme ça. Donc, je dis, je ne veux pas vous enlever la chambre. Donc, oui, on va fermer la porte, mais il n'y a rien à faire. Tu sais, je suis toute seule, il n'y a rien. Même le lit, je l'ai fait juste à moitié. Donc, et donc, je dis, asseyez-vous là, on va prendre un thé. Puis moi, j'ai des questions à vous poser.
Mais quelle excellente idée!
C'est ça, donc j'ai dit à. Mais non, elles ont toutes des vies tellement intéressantes, ces femmes-là, en soi. Y a comme tu peux imaginer, il y en a beaucoup qui sont des immigrantes qui ont fait des parcours extraordinaires pour arriver jusqu'au Canada. Donc, je veux toujours entendre ces parcours-là. Et donc, j'ai dit, tu me donnes personne, la personne qui m'apporte la nourriture. Elle laisse devant la porte et tu fermes la porte. Là, tu m'enfermes dans cette chambre-là pendant 48 heures juste pour écrire vraiment trois phrases. Et je voulais décrire ouais, tout ce qui arrivait. Puis, par exemple, juste l'image. Je voulais dire que cette petite fille-là, qui était petite fille à 13-14 ans, est devenue adulte en une matinée. Et donc, comment le décrire? Et je me dis, ah, ben voilà, je me dis, c'est parce qu'elle s'est couchée avec les deux tresses en gamine, mais qu'elle s'est réveillée là, avec des têtes d'adultes scalpées devant ses yeux. Et donc, on voit tout de suite le revirement, ou sinon ouais, le
Le
changement.
basculement,
Oui. Mais c'est comme si c'était en une seconde, tu sais.
le...
Et tout, je pense que j'ai réussi à faire trois phrases et il m'a fallu 48 heures. Donc, ça a coûté cher ces trois phrases-là, deux nuits d'hôtel.
Comment, c'est un investissement, là?
Oui, c'est un gros investissement, mais c'est un bout très difficile pour moi. Comment faire pour, comme tu dis, ne pas être dans le documentaire seulement, même si ces faits-là sont des vrais faits, des faits réels. Mais comment, à partir de seulement un fait, j'ai réussi à faire ressentir en fait tout l'événement, tout le massacre, juste
Oui,
avec.
puis l'écriture montre bien aussi justement le fait que ça bascule d'une seconde à l'autre. Tu sais, on lit le livre, je me rappelle ce paragraphe-là, je l'ai recommencé parce que je me disais, attends, là, on est tout de suite dans l'horreur. Donc, ça aussi, ça permet de montrer la complexité de ces vies-là qui sont des vies normales jusqu'à ce que l'horreur arrive, tu sais, qui peut arriver, en fait, à tout le monde, là.
Oui.
Donc, c'est
Donc,
vraiment...
le revirement est très rapide et je ne voulais pas qu'on soit dans le, comment dire, dans le drame, dans le
Le
gore,
mélodrame, ouais, ok,
oui, le
le
dégueulasse.
gore,
C'est pas, j'ai pas envie qu'on voit les humains comme étant des gens dégueulasses. C'est pas ça. Ces soldats-là n'étaient pas des gens, des mauvaises personnes en soi. C'est la situation qui les a emmenés jusque-là. Mais en soi, je ne crois pas que dans leur vie, là, un mois avant le déploiement ou avant qu'ils arrivent à à ce matin-là, qu'ils avaient à être mauvais. Tu sais, je ne pense pas que c'était leur objectif dans la vie
Non,
de
c'est
réveiller
ça.
pour aller violer des femmes et puis la série, moi, le corps des femmes avec des canifs là,
Non,
après le
c'est ça.
viol. Je pense pas que c'était ça.
C'est vrai, c'est vraiment une perspective intéressante. Personne décide d'aller quelque part et de se dire, je vais être immensément cruelle à 19
Non, tu sais, il y en a peut-être. Hein, on dit pas, je ne
Ouais.
dis pas que dans la société, il n'y en a pas. C'est sûr qu'il existe des psychopathes, mais pas une population aussi grande
Non.
qu'une armée. Il n'y a personne qui avait prévu ça. Mais c'est là où on se dit c'est la vie et le contexte qui nous impose, qui nous change. Et c'est ça que je voulais décrire, parce que je ne voulais pas qu'on accuse qui que ce soit. Parce que toute cette situation-là, tout le monde est victime. Et on croit que ces soldats-là ont gagné parce qu'ils ont réussi à massacrer un village. Non, ils sont complètement traumatisés. Leur vie était finie. Et ça, j'ai vu plusieurs reportages et plusieurs témoignages, mais vraiment, il y en a un là, il tremble comme ça, avec 20 bouteilles de pilules devant lui, puis pas, il n'y avait rien qui n'allait pas physiquement. Médicalement, il n'y avait rien. C'était dans sa tête, à lui, son traumatisme était tellement grand que ça affectait son physique. Et c'est là où on se dit, il n'y a personne qui a gagné dans une guerre, tout le monde est victime.
Tout le monde est perdant, tous les soldats
Oui.
sont victimes. Puis j'ai aussi l'impression qu'il y avait peut-être une volonté de, je veux dire, de livres politiques, mais d'espèce de, un peu de manifeste. Tu sais, vous parlez entre autres, bon, l'opération Babylift, la guerre du Vietnam, et vous parlez aussi de comment les Américains, les dirigeants américains on fait des opérations comme le baby lift pour avoir l'air finalement d'être généreux, d'avoir posé des bons gestes, mais que c'était plus une opération de relations publiques qu'autre chose. Donc, c'est ça, je voulais savoir s'il y avait une volonté d'écrire quelque chose de plus engagé ou si c'est juste arrivé comme ça.
Ah, ben non, ben, tu sais, c'est en écoutant, en cherchant, en essayant de comprendre que c'est là où on trouve finalement la racine du mal, d'une certaine façon.
Oui, ouais, ouais,
parce qu'au début, c'est très facile d'accuser, ah, lui, il a fait un geste horrible, c'était les
ouais.
seuls. Mais c'est pas, la racine du mal, c'est pas ça. Eux, c'était les symptômes, en fait, ou sinon les exécutants d'une idée de départ de quelque part. Et c'est là où on réalise que ces guerres-là, pas seulement la guerre du Vietnam, mais la plupart des guerres, si ce n'est pas toutes les guerres, sont en fait manipulées par quelques personnes. C'est quelques personnes qui décident du destin de millions et de millions de personnes. C'est fou quand même, le pouvoir. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu m'empêcher de partager dans le livre où on a l'aspect peut-être plus documentaire que maintenant que les archives sont accessibles et qu'on dise, mais oui, on continuait à envoyer des troupes, des nouvelles troupes au Vietnam, on continue la guerre, pourquoi? Et de nommer les trois raisons, 10% pour soutenir la démocratie. On s'entend. 10% pour soutenir le Vietnam du Sud. Et puis 80% pour éviter l'humiliation. Et ce que j'ai pas réussi à voir, c'est pas écrit si on évite l'humiliation de qui? Est-ce qu'on évite l'humiliation des États-Unis? Est-ce qu'on évite l'humiliation du président ou du gouvernement qui est en place? Qui est humilié dans tout ça? Qui pourrait être humilié dans tout ça? Et c'est ça qui est intéressant. Et puis, du côté des Vietnamiens, c'était pas mieux. Hein? Selon la documentation et tout ça, on dit que selon des témoignages, parce qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, on a accès à plus de témoignages du côté vietnamien. Parce que et c'est ça qui est triste aussi, c'est que cette guerre-là est documentée beaucoup plus aux États-Unis ou en France, mais pas au Vietnam. Même aujourd'hui, parce que tout est encore très censuré. Et je donne un exemple. Il y a une soldate qui a raconté qu'elle a commencé, puis au début, elle ne savait pas qu'elle ne pouvait pas le dire, mais elle disait que son uniforme commençait à se déchirer du côté des Vietnamiens du Nord. Donc, il y avait beaucoup de propagande et tout ça. Puis une collègue qui était plus senior, il a dit, tu ne peux pas dire ça. Que ton vêtement commence à se déchirer parce que ça veut dire que tu es en train de critiquer le parti de ne pas s'occuper de toi, de ne pas bien s'occuper de toi. Donc, ce que tu peux dire, c'est que ton vêtement commence à fleurir.
OK. Oh, wow!
Ouais.
OK.
Ouais. Et puis, les photographes du Parti communiste du Nord recevaient, ceux qui étaient assignés évidemment, recevaient une pellicule de 24 poses. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas de digital, donc c'était vraiment des poses de photos. Et donc, il disait que chaque photographe qui recevait la pellicule devait revenir avec la pellicule au complet. S'il manquait même un petit bout là-dedans, il serait puni. Parce qu'on va dire, qu'est-ce que tu as fait avec ce négatif-là ou ce film-là? Et tous ces négatifs-là étaient développés par le ministère de je ne sais pas trop quoi, des responsables. Et seules les photos qui glorifient l'armée du Nord pouvaient être développées. Le reste était détruit.
Aïe, aïe, hein?
Interdit. Donc aujourd'hui, on réussit à retrouver quelques photos qui avait été censuré à l'époque.
Mais wow.
Et donc, quand on parle de dirigeants, de la racine du mal, c'est ça.
Ouais,
c'est ça. Il y en avait quelques-uns, puis apparemment, cette guerre-là a duré 20 ans parce que le numéro 2, parce que le numéro 1, c'était Ho Chi Minh, ou l'image qu'on utilisait pour ce combat pour l'indépendance du Vietnam, c'était M. Ho Chi Minh, mais il n'était plus vraiment actif pendant la guerre avec les Américains. C'était le numéro 2. Et M. Lê Duẩn, le numéro 2, selon les dires là, de ceux qui travaillaient de près avec lui, dans le Politburo qu'on dit, donc le cerveau du Parti communiste, il disait que Lê Duẩn, il était prêt à y aller jusqu'au bout parce que c'était la seule façon pour lui de se faire un nom après Ho Chi Minh.
Oh
Parce que Ho Chi Minh a gagné contre les Français
mon
et donc lui, il ne pourra jamais être plus grand qu'Ho Chi Minh. Donc, la seule façon, c'est de gagner contre les Américains.
Donc, c'est l'orgueil d'un homme qui condamne des milliers, des
L'ego,
millions.
hein, l'ego d'un homme, puis il disait, c'est ça, on va se battre jusqu'au dernier Vietnamien.
Oh mon Dieu!
Et là, tous les jeunes y allaient. Ils étaient encouragés par oui, tu sais, on est patriotique, on va se battre pour l'indépendance du Vietnam jusqu'au bout. Mais jusqu'au dernier Vietnamien. Et ce monsieur-là qui fait le témoignage aujourd'hui, il dit, il n'avait pas compris à l'époque. Mais le message, c'est que je suis prêt à sacrifier tous les Vietnamiens pour gagner.
Ah, c'est fou. Ouais, la racine du mal, comme vous dites, c'est très bien exprimé. Je vais poser un peu des questions. J'avais deux feuilles pleines de questions, mais je vais pas trop être égoïste, pas trop parler avec mon orgueil, puis je vais poser les questions des gens qui nous en posent beaucoup dans le chat. Merci tout le monde. Donc là, la première ici, je ne vois pas le nom de la personne, mais c'est une excellente question. Cher Kim, une fois votre livre terminé, avez-vous eu l'espace d'un instant envie d'y ajouter et ou de changer quelque chose?
Non,
Non!
j'ai enlevé. C'est le contraire. Quand j'ai tout terminé, là, et ça en allait vraiment chez l'imprimeur, là, je faisais juste peser sur le bouton
Ben
pen, là, puis ça s'en allait chez l'imprimeur. J'ai eu les commentaires de mes éditrices françaises de Paris qui ont lu le manuscrit. Et ils m'ont juste écrit une petite phrase. Étrange, comment il y a une partie du livre que tu as écrit sur 30 pages alors que normalement, tu en fais seulement 10. Tu as besoin seulement de
Oh.
10 pages pour écrire ces 30 pages-là. Je suis comme, oh! Est-ce que, ben, je pense que c'était une façon polie de me
Mon Dieu, mais à 2 jours de la date, c'est quelque chose, là.
Ouais, donc j'ai rouvert le livre et j'avais 24 heures. Je n'avais pas plus que ça parce que, vous savez, en ce moment, ben, il n'y a que deux imprimeurs
Ouais,
au Québec.
Beauvais.
Avant, il y en avait trois, mais maintenant, il y en a juste deux. Et donc, ils sont très, très occupés et le calendrier là, était rempli,
Des
rempli,
bords,
rempli.
ouais.
Donc, ils ne pouvaient pas me déplacer. Et
Oh mon
surtout
Dieu.
que le M, c'était un gros morceau, donc ils ne
Mais
pouvaient
oui.
pas échanger avec un autre livre. Donc, ils m'ont dit, non, là, si t'as 24 heures, c'est tout. Sinon, on envoie la version que tu avais. Et j'avais 24 heures pour rouvrir le livre au complet. Et ce qui est resté, c'est 20 000 mots sur les 33 000.
Oh, wow! Mon Dieu! Puis
Donc, j'ai
imagine que vous avez
surtout
fait une...
enlevé qu'ajouté. Mais
Mais vous avez
ça,
fait un
là,
travail très lucide! Mon Dieu, le livre ça doit être, mon Dieu, un travail de maître,
ben, c'est un travail stressant
là!
à cause du temps, parce que j'avais en plus le tournage de la table de Kim cette semaine-là. J'avais 2 journées de tournage avec le livre, donc je devais finir le livre et je me souviens, là, j'ai fermé l'ordinateur à 4 h du matin et à 6 h, je recommençais pour
Oh
finir.
mon Dieu.
La table, parce que je devais me préparer avec les dossiers de recherche, avec tout ça. Donc, c'était, je ne sais pas comment, je crois que c'était le moment de ma vie où, parce que mon corps, il ne ressent pas le stress.
Ah,
Je ne
OK.
sais pas c'est quoi être stressé. Mais involontairement, c'était là, je crois, parce que mon corps, il palpitait tellement, là. Je me dis,
Ah.
mais voyons, ça va sortir de ma cage thoracique.
Oh, wow! Mais
Oui,
mon Dieu,
donc,
vous avez toute mon admiration.
ah,
Cette journée a dû être...
c'était un pari que j'étais sûre que je n'allais pas réussir. J'ai dit, je vais rouvrir le livre. Si je réussis à le faire, je vais le faire. Si je ne réussis pas, ce n'est pas grave. On a déjà quand même une version. Et je l'ai rouvert. Puis, oh mon Dieu, de replacer le tout. Mais quand je vous dis replacer, là. Ah,
tous les fragments, là. Oh, wow.
Mais tout, c'est comme avant, c'était la photo d'un ours sur un iceberg, disons, du casse-tête, là, c'est ça. Mais après ça, c'était plutôt un aigle. Je ne sais pas trop. Mais, ou sinon, l'ours, mais dans les poubelles, tu sais, genre, tu sais, c'est comme... Sinon, je devais refaire le casse-tête avec une complètement, là, pour faire une nouvelle image et non pas comme dans la première version, parce que hey, enlever un tiers du livre,
c'est beaucoup. C'est fou. En 24 heures.
Mais je crois sincèrement qu'il est meilleur dans cette version-ci.
En tout cas, c'est une version excellente. Donc, clairement, ça a fonctionné. Là.
Non, donc, j'espère qu'un jour, qu'une université quelconque soit intéressée là, à recevoir mes différentes versions. Parce que je veux qu'on voit le travail tellement important des éditeurs.
Oui, oh oui, mon Dieu.
Et des éditrices, et des correctrices, et les réviseurs. Qu'on voit là, au début comment mon texte était mauvais. Là, je veux qu'on voit à quel point j'étais nulle. Si je n'avais pas toute cette équipe-là, toutes ces femmes-là autour de moi, je n'aurais pas ce livre-là.
Non, les éditeurs sont primordiaux là, dans l'écriture d'un livre. Là. On n'y pense pas toujours, mais c'est vraiment un travail important.
Ah, alors je vois la question. Là, pensez-vous qu'un jour, vous aurez envie de parler d'autre chose que le Vietnam, que l'inspiration soit autre chose? Peut-être, mais je crois que je suis moins intéressante ailleurs. T'sais, je me dis que si c'est un livre sur les relations de couple.
Oui.
Je crois qu'il y en a plein d'autres qui sont meilleurs que moi. Tu sais, que ce que je raconterais serait plate d'une certaine manière. Donc, est-ce qu'un jour, je ne sais pas pour le moment, je vous dirais, c'est juste que, c'est pas que je voulais parler de ces histoires-là, c'est que ça a été planté, puis je me dis, mais c'est trop, c'est trop intéressant pour que je ne partage pas avec vous. De voir des enfants mis dans des boîtes de carton, strappés dans le fond de l'avion. Quand est-ce qu'on parle de ça? Et donc, ce n'est pas une question d'inspiration du Vietnam, mais c'est peut-être le pays que je connais le mieux, ou sinon les débuts, comme juste le mot « coulis ».
Oui.
Et à partir de là, ça déboule sur autre chose. Donc, c'est comme les points d'iceberg. Je connais juste le petit bout, puis je creuse à chaque fois. C'est ça, je dirais, si j'écrivais un livre sur, je sais pas, sur l'hiver, je serais moins bonne qu'une autre personne, je pense.
Oui, puis vous servez du Vietnam pour parler de plein de choses. Je veux dire, dans tous vos livres, il y a de l'amour, il y en a des relations de couple, d'amitié, familiale. Donc, c'est pas des livres qui sont seulement sur un sujet, là.
C'est ça. Mais oui, puis je pense que le Vietnam, c'est une excuse, en fait, pour parler. C'est un fond. Parce que je crois que toutes les guerres se ressemblent. Je crois que si on parle de l'Afghanistan, si j'étais afghane, je pense que probablement ce serait le même discours.
Il y a vraiment quelque chose d'universel dans les livres, c'est vrai.
Que la guerre est universelle, que l'horreur est universelle et l'amour aussi.
Absolument. On a ici Sylvie. Je pense que vous avez déjà répondu en partie. Mais certains écrivains travaillent à partir d'un plan préétabli. Mais j'ai l'impression que c'est pas votre méthode de travail et que votre écriture est évolutive tout au long du parcours de création.
Oui. Tout à fait. Puis des fois, c'est juste parce que j'ai accroché une nouvelle, parce que j'ai parlé à mon éditrice, parce que, ouais, n'importe, je voulais parler d'une église aux États-Unis. Puis là, elle m'a dit, ah oui, tu sais, dans quel quartier à New York? Puis je dis, oui, je m'en souviens. Puis là, ben, j'ai changé complètement le cours de l'histoire juste parce que j'ai parlé de cette église-là. Parce que je voulais parler des métis noirs et asiatiques. Chose qu'on ne parle jamais. Mais à partir de, justement, ces traits d'ouvriers qui se sont le plus gros, c'est pour ça que j'en ai glissé un mot, là, le plus gros quartier chinois était à Cuba, était à La Havane.
Oui, c'est vrai.
Oui, donc parce qu'il y avait des ouvriers partout. des ouvriers chinois ouais, qui étaient envoyés un peu partout, les Indiens aussi. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Oui, donc
Oui,
oui,
ben
c'est
c'est évolutif.
évolutif. C'est
Comme
n'importe quoi, en fait.
réponse à cette question, c'est évolutif. Ensuite, il y a Nadia qui demande, avez-vous pensé pour ce livre ou pour un futur livre à interroger des anciens combattants de la guerre du Vietnam, vu qu'ils ont vécu beaucoup de traumas?
Ah, mais oui, j'ai écouté beaucoup. Je vous dirais que, tu sais, quand je parlais
Ouais,
tout à l'heure de la technologie, c'est que sur YouTube, heureusement, je peux encore comprendre le vietnamien, j'allais dire, assez bien ou vraiment bien. Je comprends tout le discours, en fait, quand j'écoute. Et donc, ces personnes-là, aujourd'hui, sont filmées, certains d'entre eux, pas tous. Mais il y en a qui ont accepté de parler, qui n'ont plus peur parce
Ouais.
qu'ils sont rendus un peu plus âgés, 80, 90 ans et tout ça. Donc, ils n'ont plus peur de se faire arrêter d'une certaine façon. Et il y en a aussi beaucoup qui ont quitté le pays. Et grâce à voilà, t'sais, des micros faciles avec un iPhone, avec un petit appareil, ont réussi à le faire comment dire. L'envoyer sur le web pour que nous, on puisse en profiter et écouter un peu plus. Donc, tout à fait, je n'aurais jamais pu écrire ce M sans avoir écouté des. Je ne sais pas, je ne suis pas capable de vous donner un chiffre, mais j'ai passé tellement de nuits avec eux que j'ai l'impression que, ouais, que je les connais, en fait, parce qu'il y a des personnes que j'écoute même deux, trois entrevues différentes juste pour voir. Vraiment aller chercher le cœur, le petit bout, en tout cas, que moi. Alors, oui, tout à fait, tout à fait. Et la chance est là, c'est que j'entends des deux côtés maintenant. Alors qu'avant, il y avait, avant l'Internet, évidemment, il y avait surtout la documentation américaine et française seulement.
Monique Lebel et Brigitte Deschamps ont une question qui se ressemble, donc je vais la mixer en une. Après l'écriture d'un livre, est-ce que vous vivez un petit deuil? Est-ce que vous vous sentez un peu déprimé ou est-ce que vous êtes pleine d'énergie?
J'ai pas eu le temps.
Pas eu le temps.
Probablement que si j'avais le temps, j'aurais fait un deuil ou quelque chose. Et là, j'ai fini à 4 heures du matin, puis
Oh
à
mon Dieu, c'est
6
vrai.
heures, j'étais sur un plateau de tournage, donc j'ai pas eu le temps
Le deuil rentrait pas
de
dans
faire un
l'horaire,
deuil.
là.
Non,
Ouais.
non, non, parce que la vie m'arrive vraiment en tsunami, là, tu sais, non. Tsunami, c'est peut-être péjoratif, mais tu sais, l'exemple que je donne souvent, c'est le verre à moitié plein puis moitié vide. Je suis toujours mélangée. D'ailleurs, en ce moment, je ne sais pas lequel est négatif ou positif. Moitié vide, c'est parce qu'il y a encore de la place pour remplir, puis moitié plein, parce que j'ai déjà profité de la moitié de quelque chose qui était dedans. Et puis, puis là, j'ai cherché, tu sais, je me suis posé la question, pourquoi ça ne me rentre pas dans la tête, cette expression-là? Et finalement, je me suis dit, mais c'est parce que je vois vraiment la vie comme les chutes Niagara qui descendent, puis que j'ai juste un verre pour aller ramasser toute cette eau-là. Donc, comment. Ça déborde tout le temps. Donc, non, il n'y a pas de deuil, en fait. Oui, probablement. Je dois avoir les mêmes sentiments que tout le monde.
Mais vous
Mais je
n'êtes
sais pas.
pas obligé là d'avoir mal, Kim, là, on veut pas, hein?
Non, mais je veux être comme tout le monde quand même. Mais sincèrement, c'est juste parce que je n'ai pas le temps. Les bonnes choses arrivent. Tu sais, c'est comme dans un buffet. Il y a toujours des bons plats qui arrivent, là, on n'a pas le temps, tu sais, quand on va dans des bons restaurants avec 7, 8 services, on vient de manger quelque chose de sublime, puis là, il y a un autre sublime qui arrive, puis un autre,
On n'a
et
pas le temps
on est
d'être
tous
déçus.
mêlés. Non, c'est ça. Donc, non, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore eu la chance d'avoir, de ressentir le deuil. Et aussi, mon Dieu, tu sais, j'ai l'impression que je n'ai pas réussi à tout vous raconter. Donc, je me dis, mon Dieu, je vais avoir la chance d'en raconter d'autres. Donc, j'adore ces rencontres organisées par vous. Parce que là, je peux vous raconter les histoires derrière, les histoires, puis les histoires que je n'ai pas pu raconter dans le livre. Donc, non, pas vraiment. Je suis désolée.
C'est parfait. Moi, je suis sûre que tout le monde est très heureux de savoir que vous ne vivez pas de peine d'après un livre. Mais justement, Maryse Lécuyer demandait, est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture déjà? Vous dites que vous avez d'autres histoires, oui?
Oui!
Donc, on peut en parler un peu.
Ceci dit, je ne sais pas si ça a marché, je raconte plein d'affaires. Puis vraiment, pour M, là, je l'ai raconté pendant 3 ans. Donc, vous imaginez le nombre d'histoires différentes. Donc, est-ce que ça va fonctionner ou pas? J'ai aucune idée. Mais j'ai une petite idée juste parce que j'ai discuté avec un ami qui est brillant, brillantissime. Vraiment, il y a comme 5 cerveaux dans sa tête. Et là, il a lu le livre, puis il me donne pas de commentaires, tu sais. Puis là, j'ai dit, hein, comment ça? Tu me donnes pas de commentaires, tu sais. Il me donne pas les critiques. Où sont mes points de faiblesse et tout ça? Il dit, je suis fâchée contre toi. Je dis, mais voyons. Il dit, c'est bien trop court.
Ah! Ça, c'est un très beau compliment, en fait.
Oui. Non, mais dans son cas, là, je suis pas sûre que c'est un compliment. Il dit, c'est trop court. Non, ce livre-là est trop court, ça ne fonctionne pas. Puis j'ai dit, ah, mais c'est parce que j'ai enlevé le tiers et tout ça, mais il dit, quel bout que tu as enlevé, pourquoi tu as enlevé et tout ça. Puis j'ai écrit que c'était le bout où j'avais plein de dialogues, que je n'étais pas capable de faire des dialogues. Non, puis là, je me suis corrigée, j'ai dit, non, non, je pense que j'aime bien mes dialogues, mais c'est tout ce qui est autour des dialogues qui ne fonctionne pas, je suis juste quétaine. C'est quand je raconte avec mes dialogues et tout ça. Donc, je te lance le défi d'écrire un livre juste avec des dialogues. Donc, peut-être que c'est.
Ah, oh wow, OK, c'est une contrainte.
Oui, non, mais dis, en tout cas, c'est entre amis, là, puis il m'a lancé ça de même, là, parce qu'il croit que j'ai du temps, là. Non, c'est peut-être ça. J'ai aucune idée. J'ai pas osé essayer encore. Parce que j'ai peur que ça. Pas que j'ai peur, mais je me dis, ah, je veux vraiment m'y mettre pour voir comment ça fonctionnerait. Et ouais, mais il faut du temps. Donc,
Ouais, c'est ça.
en ce moment, j'ai des petits blocs de 15 minutes, 20 minutes.
Oh mon
C'est
Dieu.
donc difficile de gérer, mais oui, je vais aller m'enfermer dans un hôtel.
C'est ça. Ah voilà, c'est la solution.
Oui.
Florence Bessette demande, d'où est venue l'inspiration du personnage de Louis, qui, c'est vrai, est un personnage particulièrement
Ah,
poignant?
ben Louis, c'est ça, ça vient vraiment de l'image de la petite fille dans la boîte de carton sur un trottoir avec un garçon couché sur le côté comme ça, en arc, pour comme l'envelopper, elle. Et j'ai cette image-là, moi, je ne sais pas pourquoi, c'est une image qui m'est restée. Puis la première fois que je l'ai vue, c'est il y a, mon Dieu, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand l'Internet a commencé à exister, peut-être. Et c'était une des images marquantes aussi chez les Américains. Et donc, j'ai su que la petite fille a été adoptée par un couple américain et qu'elle est devenue un haut gradé dans l'armée américaine. Mais je n'ai rien trouvé sur le garçon. Donc, où est le garçon? Et là, je me pose encore la question aujourd'hui, où est le garçon? Peut-être hein, que ça existe, la documentation, mais moi, je n'ai pas réussi à mettre mon doigt dessus. Et donc, Louis vient de l'image de ce garçon, mais je l'ai combiné avec une rencontre que j'ai eue, en fait, une vraie rencontre dans un avion.
Ah, une autre
Ah,
affaire.
non, mais on passe à autre chose. Hein? Bon, je ne raconte pas ce bout-là.
Mais c'est tellement
OK, on va prendre des questions sérieuses avant, puis je vous reviens sur cette rencontre.
drôle. OK, je prends note à la fin de la rencontre. On va revenir là-dessus. Marie-Nicole, demande, est-ce que vous avez déjà écrit un livre directement en vietnamien? Et si vos livres, non, et elle demande aussi si vos livres sont traduits en vietnamien, est-ce que vous les avez lus?
OK.
Et quel effet ça vous fait?
Alors, je ne peux pas écrire en vietnamien parce que je réfléchis en français. Je parle vietnamien, je comprends le vietnamien, mais le vietnamien, à l'oral, on utilise très peu de mots pour exprimer nos émotions. On exprime très peu nos émotions verbalement. Donc, je n'ai pas appris les mots. Tu sais, je suis arrivée à l'âge de 10 ans, donc tous ces mots-là, il fallait les apprendre dans les livres, ou dans les films, ou dans la. dans la, j'allais dire, oui, c'est ça, dans les livres, dans la poésie, tout ça, mais pas à l'oral. Et tout ce que moi, ce qui me restait du vietnamien, c'était l'oral, ici, au Québec. Donc,
OK.
parce que je parle à mes parents en vietnamien. Mais tu sais, il n'y a pas d'émotion. Puis l'exemple que je donne souvent, c'est ça, c'est que je connais le mot tristesse en vietnamien, mais je ne connais pas les nuances du mot tristesse comme la nostalgie, la mélancolie, l'irritation, la frustration, la colère. En tout cas, c'est tout ça. J'ai juste le mot générique, que je ne suis pas bien ou quelque chose comme ça, mais pas toutes ces nuances-là. Et donc, si j'écrivais en vietnamien, ce serait très limité. Ou sinon, c'est ça, ce serait comme un livre d'enfant.
Oh,
Évidemment, oui, j'ai eu la chance de retourner au Vietnam pour travailler comme avocate. Donc, je peux écrire en vietnamien sur la privatisation des sociétés d'État.
wow.
Mais
OK,
c'est pas très intéressant.
ça fait des romans un peu moins le fun.
C'est ça. Donc, en vietnamien, j'ai comme un trou entre les deux. J'ai la langue très enfantine et la langue très spécialisée. Mais rien entre les deux. C'est ça mon problème en vietnamien. Maintenant, le livre, il est dans 40 pays et territoires.
Ouais, il me semble que j'avais 40 aussi dans mes notes.
C'est ça, mais pas le Vietnam.
Ah, OK.
Parce que au Vietnam, il y a encore des mots qui ne sont pas. C'est pas confortable pour le Vietnam, Donc, on me dit, oui, on veut te publier en vietnamien, mais on va enlever certains bouts ou on va enlever certaines pages ou certains mots. Mais, tu sais, mes livres sont déjà tellement petits. Si on commençait à en enlever, ben, il reste juste la couverture. Donc, pour le moment, je crois qu'on va attendre un peu. Et c'est normal, je comprends, hein, parce que quand même, on s'est enfui du régime communiste ou d'un régime communiste, puis c'est encore le Parti communiste qui est au pouvoir, donc c'est difficile pour eux de dire, ben là, tu t'es enfui de nous, mais là, on te...
On célèbre, ouais.
Ouais. Alors que oui, le Vietnam a beaucoup changé au niveau législatif et tout ça, hein, pour pouvoir recevoir le retour. De beaucoup de Vietnamiens, parce que maintenant qu'on a été nourris, élevés, éduqués ben, ailleurs, par d'autres pays, ben là, le Vietnam est prêt à nous recevoir pour contribuer. Mais donc voilà, la question est là, je vous dirais. Donc, on attend encore un petit peu.
Parfait. Il y a beaucoup de gens, ça va peut-être être la dernière question. Il y a beaucoup de gens qui parlaient du magnifique livre et de la petite broderie que vous avez faite, qui demandaient qu'est-ce qui vous incitait, entre autres, là, il y a Dominique Paré. Donc, qu'est-ce qui vous incitait à faire de la broderie, de la couture sur la couverture des livres?
Ah, ça a été un long processus
Oui.
d'essais-erreurs sur toutes sortes de choses. C'est-à-dire qu'au début, je me disais, mais peut-être que pour le lancement du livre, je pourrais louer la billetterie de La Tulipe ou Rialto, parce que la billetterie est à l'extérieur de la salle et qu'on se donne rendez-vous, en fait, hein, par bloc à 2 mètres de distance, chacun, mais que moi, je suis dans cette bulle en verre, puis que je rencontrerai ceux qui viendraient, qui prendraient rendez-vous à venir et tout ça. Donc, on s'est dit, ah, mais ça serait ben, quand même assez sécuritaire et tout ça. Mais on m'a dit que non, c'est pas possible, ça prendrait quelqu'un, ben, la sécurité pour vraiment garder le 2 mètres. Si jamais il y a une éclosion, là, ça serait pas génial. Donc, on a écarté ça. Donc, on s'est dit, ah, oh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des signets? Mais tu sais, c'est ça, c'est banal, c'est ennuyeux un peu. Donc, ceci dit, je vous dis, là, je suis en train de préparer. Au Vietnam, il y a la soie naturelle parce qu'on a les verres à soie et tout ça. Et là, on m'a envoyé aujourd'hui la photo parce que j'ai commandé des signets pour vous. Là, ça reste entre nous, hein. C'est pas annoncé nulle part. Là. Je suis pas capable de garder mes surprises. Mais donc, c'est de la soie brodée dessus. Et c'était tellement compliqué parce que la soie est très, très mince. Donc, si vous voulez broder dessus, la soie est splice. Il y a plein de petits plis autour de la broderie. Donc, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs et tout ça durant le dernier mois pour que ça fonctionne. Parce que si on prend un tissu plus épais ou pas naturel, c'est plus facile. Mais là, c'est un tissu tellement fragile, pas fragile, mais délicat, qu'on ne peut pas, en tout cas, mais j'ai insisté à ce que ce soit de la soie naturelle, du Vietnam, blablabla. Et donc là, on se dit, OK, un signet. Et là, Louis Boudreau, celui qui a conçu la couverture du livre, m'a proposé, elle dit, écoute, si tu veux, ben, je peux coudre un fil sur le signet. Comme ça, on va personnaliser le signet. J'ai dit, ben, parfait. Mais là, quand il a vu la réponse des gens sur ma page Facebook, il dit, mais Kim, je peux pas, je peux faire 10, 15, 100 peut-être, mais pas 1000. Là, j'ai dit, Louis, qui a été tellement généreux déjà d'avoir conçu la couverture, qui m'a offert la toile. Puis quand je vous dis offert, là, il y a rien, parce qu'on n'est pas dans la capacité du tout de payer. Sinon, on a des petits budgets de 300 $ pour faire la couverture, là. Donc, c'est pas possible. Louis est un très, très grand artiste. C'est lui qui s'est offert. Et donc, j'ai dit, Louis, tu as déjà assez donné. Laisse, je m'occupe de ça. Et c'est là où est venue l'idée de coudre le fil directement. Mais la difficulté que je n'avais pas prévue, c'est que je voulais que ce soit très petit, que ce soit juste un point rouge dans l'endroit, que ça abîme pas, en fait, que
Mais
ce
c'est
soit
bien réussi, là, quand
Oui, mais c'est
même.
ça, c'est un tout petit point comme ça. Le problème, c'est que si les deux trous de l'aiguille sont trop proches, le papier se déchirait.
Ah ben oui, hein.
Et là, donc, il fallait utiliser une aiguille très fine. Sauf qu'une aiguille très fine, pour traverser le carton, il fallait faire très attention et de faire le trou le plus proche possible avec cette aiguille très, très fine. Donc, il fallait beaucoup de temps. Mais je tenais à le faire parce que c'était ma seule façon pour que vous ayez l'impression qu'on a touché le même livre. Que le lecteur les lecteurs et les lectrices ont touché le même, tu sais, qu'on s'est échangé comme si on était au salon, qu'on a touché le même livre en même temps. Et je me dis, c'est la seule façon, mais je ne savais pas que j'ai disjoncté le système au complet quand j'ai proposé ça. Parce qu'il fallait, tu sais, dans l'entrepôt, là, le distributeur, ils ont 65 000 titres en entrepôt. 65 000, 6, 5, 0, 0, 0,
Ah, mon Dieu,
des millions de copies. Alors, pour qu'ils me sortent 3 000 livres livrés chez moi, et moi, je pensais y aller avec ma petite voiture, puis je dis, je vais aller chercher les livres. T'sais, ils m'ont dit, tu comprends pas, là, c'est quoi 3 000? C'est ça, c'est une palette au complet. Mon père, il n'était pas sûr que le plancher du salon allait tenir parce que c'était
mon Dieu.
quand même. Et surtout, on n'avait pas le temps. On avait, je pense, 2 nuits pour le faire.
Oh mon Dieu, encore le temps qui manque là.
Mais oui, parce que les livres devaient retourner sur le marché le plus rapidement possible. Et là, en plus, quand le livre avait un fil, il fallait un autre code. Vous voyez le code barre, là, ben, sur tous les
Oui,
livres.
absolument
Il fallait un autre code pour que le distributeur il sache combien le fureteur en voulait, les livres avec la broderie, par exemple. Donc, c'est comme un autre livre, c'est pas le même. Donc, il fallait coller un autre code barre sur le livre, en plus de la broderie, en plus de l'étampe. Mais mon fils autiste était très bon.
Oui,
C'est lui qui a
j'ai vu
collé
les
tous les.
exemples. Super, ça, quand on a de l'aide comme ça de ses enfants, ça peut.
Oui, et finalement, je vous dirais que ça a été un beau projet familial. Ouais, parce que ma mère s'est mise à la partie, elle m'a beaucoup aidée. D'ailleurs, elle a été plus efficace que moi. Mon fils Valmont et mon autre fils Justin, que certains d'entre vous connaissez peut-être parce qu'il a fait toutes ses études à Saint-Lambert, là, au Durocher, à Durocher. Et non, on était vraiment là, puis mon père là-dedans qui essayait de gérer les boîtes déjà faites, les boîtes pas faites. Donc, comment? Parce que j'ai siégé leur salon, hein? Oui, puis en plus, on devait faire ça avec distanciation avec mes parents. Même si on est enfermé dans la même bulle, on essaie quand même de ne pas être en contact avec eux pour les protéger. Et donc, c'est ça, ma mère qui était dans sa chambre, donc on lui apportait les livres, on déposait les livres, puis là, on retournait. En tout cas, il y avait toute une chaîne.
Wow. Wow, mais ça a très bien fonctionné, puis ça a vraiment valu la peine. Effectivement, je pense que on sent la petite attention, le contact avec vous encore plus privilégié. Donc, c'est une
Mais
excellente idée.
on veut en faire d'autres,
Ah
sauf que c'est tellement exigeant pour le
oui! Ouais, c'est ça.
distributeur de gérer tout ça. Vous imaginez, il faut avoir un camion qui me livre tous ces
Ouais.
livres, puis un autre camion qui revient pour aller les chercher. Ça prend une palette. En tout cas, c'est plus compliqué que je pensais.
Parfait. Donc, pour terminer la rencontre, est-ce que vous voulez revenir sur l'anecdote avec Louis, avec la personne dans l'avion que vous aviez commencé tantôt?
Non, c'est vrai, là, il n'y a plus d'autres questions. Oh, Myriam, tu veux vraiment que je te raconte cette
Ben,
histoire-là?
moi, j'aimerais beaucoup ça. Moi, ça m'intéresse.
OK. Je vous raconte l'histoire. Ah, mon Dieu, je ne sais pas si j'ai le droit, mais c'est pas grave. Ça reste juste entre
Mais
nous.
c'est
Hein.
ça, on est juste 150, là. C'est pas. Saint-Lambert, on garde ça entre les frontières de Saint-Lambert. Voilà.
En fait, j'hésite entre deux histoires. Une histoire avec un Écossais.
OK.
Ou l'histoire de... Oui, l'histoire de l'Écossais, c'est très intéressant aussi. Oh mon Dieu, je suis toute mêlée, je sais pas lequel. Non, mais là, c'est parce que là, vous allez dire, elle est complètement capotée. OK, dans l'avion, OK, je raconte vraiment l'histoire de... Dans l'avion, normalement, vraiment, quand j'arrive dans l'avion, comme je l'ai écrit dans le livre, c'est je dors. Parce que c'est le seul moment pour moi de récupérer. En fait,
Ah,
donc j'ai une façon là, de nouer mon foulard autour pour garder mon cou droit et je dors avant que l'avion décolle. Tellement
Ah,
qu'il y a une fois où l'avion n'a pas décollé du tout, et quand je me suis réveillée, je dis, ah, on est arrivé, tu sais, j'ai dit ça à ma voisine, puis elle dit, on n'a jamais décollé. Ça faisait 2 heures qu'on était coincés sur le tarmac, puis la quai, mais elle n'a jamais su. Quand je me suis réveillée, je dis, ah, oh, well, tu sais, ça a été rapide, hein? Puis là, elle dit, mais on n'est pas allé nulle part. En tout cas, donc juste pour vous dire à quel point je peux dormir, là, complètement un sommeil profond, profond, profond. Et donc, j'étais dans la queue, vraiment, j'attendais à monter dans l'avion pour dormir, puis il y avait juste une personne devant moi, puis j'étais contente que je sois la deuxième à rentrer, puis ça, je rentre, puis là, en marchant, je ne sais pas trop pourquoi, oui, il s'est retourné sur ses pas pour remettre une copie du journal, parce qu'il avait pris deux journaux ou quelque chose comme ça, et c'est là où on s'est comme croisés, et il y a eu, je ne sais pas, je l'ai trouvé extraordinaire, comme ça. Il y a des gens qu'on trouve extraordinaires sans connaître.
Ouais.
C'est ça qui est arrivé. Et là, je fais comme, wow, c'est tout. C'est retourné, puis on a continué. Et là, par pur hasard, je rentre dans l'avion, on était dans la même rangée. Il y avait juste
Wow.
une personne entre lui et moi. Puis là, je me suis dit, wow, c'est quoi le hasard des choses? Et là, j'étais complètement niaiseuse. J'ai dit quelque chose comme genre, il fait chaud, hein? C'est tout comme une madame qui chiale. Puis c'est tellement pas moi. Normalement, je dis pas ce genre de choses-là. Puis je dis, oui, il fait chaud, hein? Mais en fait, je pense que c'est juste que j'avais chaud dans ma tête. T'sais, ça fumait dans ma tête. Et là, c'est ça. Donc, il dit, je sais pas, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais voyons, elle est folle, cette femme-là. C'est ainsi, puis on ne s'est pas du tout parlé pendant le vol. Mais je le trouvais, wow, extraordinaire parce qu'il y avait la couverture de l'avion autour de lui et il dormait très détendu, mais droit. Comme un moine, comme quelqu'un qui est en méditation. Alors, j'étais très impressionnée par cette pose. J'ai pris une photo. Correct de faire ça, là, je sais. Mais c'est parce que ce que je fais souvent dans l'avion, c'est que quand je vois quelque chose de beau, de gentil, je laisse une note. Que ce soit un agent de bord qui a pris soin. d'une personne dans le besoin. Ou, bon, je laisse toujours une note en sortant. Avec le menu, là, j'écris sur le menu une note ou sinon, à un moment donné, c'était deux filles qui tripaient vraiment sur l'agent de bord. Ben, quand il est venu pour m'apporter un thé, ben, j'ai laissé une note puis j'ai donné juste pour lui dire que ah, tu vas être sur leur Instagram, c'est sûr, parce qu'elles ont pris plein de photos de lui. Donc, je laisse plein de petites notes comme ça parce que je trouve ça joli.
Mais
Puis il faut féliciter les gens quand il faut célébrer les gens quand c'est bien, quand
c'est
c'est beau.
vrai.
Et donc, je voulais juste lui dire qu'il était magnifique. Qu'il était magnifique. Mais je n'ai pas osé donner la photo parce que je trouvais que c'était un peu creepy, déplacé.
Vous retrouvez avec une mise en demeure, ouais.
Quelqu'un qui est en train de dormir. Donc, j'ai commencé à écrire une petite note. Je voulais lui donner la note pour dire qu'il a un sommeil tellement paisible. Oui, je voulais juste dire ça. Parce que je me dis peut-être qu'il n'y a personne qui lui a déjà dit
C'est vrai.
qu'il dort bien. Parce que normalement, moi, je sais que je dors comme ça avec la mort qui coule. Alors que là, lui, et je n'ai pas osé laisser la note non plus. Donc, je suis partie de l'avion et par pure chance, il était debout vraiment derrière moi. Et donc, on s'est parlé un peu et là, je devais aller, je ne sais pas où. Et à un moment donné, là je vais vous faire envie. On va se faire rêver un peu, OK? J'étais sur l'autoroute, je revenais de Québec, je pense, à 4 heures de l'après-midi. Il m'écrit, il me dit où es-tu? Tu sais, je dis, ben, je suis sur l'autoroute en train de revenir de Québec. Et c'est quelqu'un qui habite aux États-Unis. Il m'a dit ah, mais c'est un Français qui habite aux États-Unis. Et il écrit comme ça. Il dit, ah, est-ce que ça te dirait de venir dîner, souper à Chicago ce soir?
Mon Dieu.
Là, j'ai dit, il est 4 heures le soir, je ne sais pas comment je vais faire pour arriver à Chicago pour un souper. Et là, j'ai dit, écoute, je ne sais pas trop comment, là, tu sais,
Me téléporter.
Oui, tu sais, il dit, non, il y a un vol à 20 heures. Donc, si tu veux, ben, je t'envoie, voilà. Le billet, et puis en 5 minutes, j'avais le billet
Ah,
dans le téléphone, et puis voilà.
c'est un très beau, c'est digne d'un film, là.
Oui, mais j'ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi il a insisté à ce qu'on mange ensemble, qu'on discute ensemble, qu'on se revoie en fait. Et il m'a dit, tu sais, un moment d'amitié n'arrive pas souvent. Et là, c'en est un. Donc, il faut l'attraper. Et c'était juste ça.
Wow!
C'était juste ça.
C'est une très belle histoire.
Donc, oui, c'était un peu c'était, ouais, cette rencontre-là
Oui,
dans l'avion.
cette image de l'homme qui dort, ouais, qui est devenu Louis, en fait, dans le livre, là, qui est... Ah, wow!
Donc, je lui ai rendu hommage.
C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Kim. Mon Dieu, je pense que vous nous avez tellement fait de bien à tout le monde ce soir-là. En tout cas, moi, ça a été un grand, grand bonheur de vous parler. Merci pour votre temps, votre générosité.
C'est vrai, c'est fini, là. C'est
Oui.
comme ça, là. On se quitte de
Oh, c'est frais, ça, une fin de rencontre en Zoom. C'est comme quoi,
même,
là, c'est jamais le fun.
là. Oui. Merci beaucoup d'avoir été là en si grand nombre. Merci, Myriam, d'avoir organisé et d'avoir, mon Dieu, d'être aussi bien préparée.
Oh
Parce
mon
que
Dieu.
je sais que je ne suis pas évidente.
Ah, arrêtez ça, mon Dieu. Moi, j'ai adoré ça. Moi, je vous ai trouvé très, très, très bonne comme interviewee.
Donc, alors, la prochaine rencontre virtuelle, si jamais l'invité ne se présente pas, tu m'appelles et
Oui.
je remplace.
Oh mon Dieu, parfait. Je pense que je vais faire des faux invités, puis je vais vous attendre en disant, oh, il n'est pas venu juste pour
Aucun
pour la
problème, avec plaisir, vraiment.
prochaine.
Donc, je me sens très, très, très choyée
Super.
d'être accueillie par vous et surtout Myriam. Je te dis, ça change complètement quand on est invité et on est en, comment dire, la conversation est toujours plus intéressante quand les deux, ben enfin, c'est ça, on est préparé pour le faire. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de te préparer autant, de me connaître aussi bien.
Ça m'a fait tellement plaisir. Et donc, merci à tous ceux qui ont participé. On a très hâte de tous, donc Kim, mais aussi tous les gens qui ont assisté à la rencontre, de vous voir en vrai dans la librairie. Donc, on se souhaite une bonne fin de confinement rapide pour pouvoir se retrouver dans la vraie vie.